kids upon us. Burn down the redeal!
Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Grain de Sable sur Radio Canus 102.2. Aujourd'hui, on va parler des transports en commun et plus précisément de la possibilité, le souhait de rendre gratuits les transports en commun urbains. Donc, on est avec Vincent et Lucky du collectif donc pour la gratuité des transports en commun à Lyon.
Bonjour.
Bonjour.
Ce que je vous propose, c'est que vous présentiez le collectif, comment il s'est formé, qui le compose et quels sont ses objectifs de manière plus précise que la gratuité en tant que telle.
Oui, merci de nous recevoir. Donc c'est un collectif qui s'est créé suite au forum de la gratuité qui a eu lieu dans le premier arrondissement de Lyon le 2 janvier à l'initiative de Paul Ariès et de la maire du premier. Il y avait lors de ce forum le collectif grenoblois pour la gratuité des transports en commun qui se bat depuis plusieurs années sur ce sujet. Et il a convaincu un certain nombre d'entre nous de laisser notre mail sur une feuille pour qu'on puisse se recontacter. Et c'est comme ça qu'on a été mis en lien. Et donc un mail nous a été renvoyé et suite à cela, on a commencé à se réunir fin février. Et depuis, on se réunit toutes les deux semaines pour aborder ce sujet. Donc je précise que c'est un collectif sans forme particulière, on n'est pas structuré en association. Dès le début, on s'est donné pour objectif de faire avancer cette question, notamment en vue des municipales 2020. On s'est dit que c'était une bonne échéance, ça nous laissait à peu près un an pour se structurer et
pour
faire
interpeller
connaître cette
question. Ensuite les candidats.
Tout à fait.
Absolument.
Donc à la base, c'était des personnes qui étaient venues à ce forum, donc un peu voilà, des citoyens, peut-être des gens engagés aussi dans des associations, des syndicats ou autres.
Exactement, donc on est un collectif principalement de citoyens, mais parmi ces citoyens, il y a des personnes qui sont engagées dans un certain nombre de mouvements, donc que ce soit des partis politiques, des syndicats, des associations ou autres collectifs. Donc notamment, on a plusieurs personnes qui militent à ATTAC. Voilà, c'est avant tout un collectif de citoyens qui regroupe finalement assez large. Et on le retrouve aussi d'ailleurs dans les profils des personnes et puis des générations. Donc on va à peu près de 20 ans à plus de 60 ou 65
ans. 77 ans.
De 7 à 77 ans.
De 7 à 77 ans, c'est l'objectif.
Et donc un des premiers objectifs, c'est de pouvoir interpeller, avoir construit un discours à l'occasion de la campagne électorale.
Disons que compte tenu des conditions de la création, l'objectif ça a été d'abord de se constituer, de travailler, de se former, de former les gens au fur et à mesure qui venaient, qui s'associaient à notre mouvement, à notre groupe, et effectivement à partir de là d'essayer de se populariser un petit peu, dans la mesure où on a eu assez rapidement un article dans le Progrès d'une journaliste du Progrès qui était venue à une de nos réunions et qui a rendu compte de ce qu'on faisait. On a également fait une sorte de plateforme, disons un peu, avec des principes sur la façon dont on envisage cette question de la gratuité. On va y venir, je pense.
Oui, parce que je pense qu'il peut y avoir débat aussi sur la façon dont on le fait, dans le pourquoi on le fait. Je pense qu'on y reviendra.
Et également, donc, un travail qu'on fait. Alors, c'est surtout Elsa qui fait ce travail, mais on essaye de l'aider aussi. C'est un travail par rapport aux idées reçues. C'est-à-dire de lutter un petit peu contre les idées reçues. La gratuité, ça conduit à l'incivilité. La gratuité, ça va ruiner etc. La gratuité, les gens s'occupent plus du bus. La gratuité, c'est contraire à la qualité. Donc, il faut répondre à toutes ces questions qui sont quand même bien dans les têtes. Hein, et voilà, je pense qu'on peut.
En tout cas, c'est un sujet qui n'est plus, qui est maintenant assez bien connu quand même.
C'est un sujet
qui a assez bien combattu. C'est un sujet qui a été repris quand même, y compris par des grands médias, parce qu'il y a des villes quand même qui se sont engagées. Du coup, dans la gratuité des transports, vous y reviendrez, il y a des exemples, hein, Cherbourg, hein, je crois, par exemple.
Dunkerque.
Et là, tout dernièrement, c'est ce que je vous disais, là, dans le Dauphiné, moi, là, j'ai vu un article là, sur une table ronde organisée par le CNTC de Grenoble, à partir d'une étude de faisabilité des transports, de la gratuité des transports grenoblois. Et donc, il y a eu cette table ronde. Donc, je ne sais pas ce que vont décider les élus du CMTC, etc. Mais au moins, c'est un sujet qui est quand même repris. Ce n'est pas quelque chose qu'on
alors,
cache maintenant.
Grenoble, c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même un travail qui est fait depuis plusieurs années. Éric Piolle le rappelle que quand il a voulu poser la question de la gratuité au syndicat mixte, etc., ben il s'est cassé la figure, c'est méchant. Il n'a pas réussi parce que les gens n'étaient pas prêts. Donc il y travaille avec le collectif, d'ailleurs pour les transports gratuits, il y travaille avec le Parti communiste aussi, il le cite d'ailleurs dans un article. Il y a une tentative pour mettre cette question à l'ordre du jour. Mais quand vous êtes accompagné par la municipalité, je dis pas que c'est facile, mais ça fait un peu plus d'ouverture que quand vous vous retrouvez comme nous ici à Lyon et surtout à la métropole, où on se heurte quand même à une étude qui a été faite pour le Citral, une étude qui a été faite par une sénatrice, qui sont des outils de combat contre la gratuité.
On voit qu'il y a du débat, on peut trouver des articles, et souvent ce débat, il va plutôt diffuser les idées reçues dont tu parlais, et plutôt des arguments contre. Alors, vous avez dit, vous êtes formé, donc j'imagine en lisant un certain nombre de choses, peut-être en prenant contact avec des collectivités, on y reviendra, qui ont déjà mis en place. Et avec quels moyens vous avez pu justement vous former, créer votre expertise ?
Alors, tout d'abord, je dirais qu'il y a quand même maintenant une certaine littérature qui existe sur le sujet. Pour moi, un événement marquant sur cette question, c'est le passage de la métropole de Dunkerque à la gratuité des transports publics. Puisque aujourd'hui, c'est la plus grande métropole en France qui a adopté cette mesure, environ 200 000 habitants. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que au préalable, donc là, la gratuité existe depuis environ un an, et auparavant, ils avaient testé la gratuité pendant les week-ends, pendant 2 ans. Et en même temps qu'ils ont fait ce test, il y a eu une étude sociologique assez poussée, avec des enquêtes de toutes les personnes qui pouvaient être utilisatrices des transports en commun, que ce soit donc des simples citoyens ou bien des conducteurs, des contrôleurs, etc. Et donc c'est une bonne source d'information pour nous que d'avoir pu lire ces différents rapports. Ensuite, comme vous l'avez dit, il y a d'autres études, alors qui sont plutôt généralement hostiles, on va dire, à la gratuité, qui ont été écrites à la demande des transports. Enfin, je ne sais plus qui est le commanditaire, mais il y a une étude sur Paris. Il y a donc, comme Lucky l'a cité, une étude sur Lyon. Donc on a beaucoup de matière, en fait, pour regarder cette question. Et puis, comme on est amis avec les autres collectifs pour la gratuité, et notamment le collectif grenoblois, qui existe depuis des années, bah, bien entendu, ils ont un certain nombre de ressources bibliographiques qui nous ont permis d'avancer.
Et donc les modes d'action du collectif, donc c'est faire connaître. Vous dites que vous avez déjà le progrès qui a assisté à une réunion.
On a fait aussi deux réunions publiques, d'ailleurs à la Maison de l'écologie, où on diffuse en fait les idées principales et les enjeux principaux de ce que l'on veut engager. Donc c'est une façon de... Et puis on va développer puisque là on a quand même eu tout un travail de mise en forme du groupe, des documents que l'on a. À partir de là, on va commencer à être un petit peu plus public. Hein. On envisage de faire une conférence de presse, donc qui peut nous aider, enfin, tout dépend qui viendra, qui peut nous aider à populariser aussi ce genre de choses.
Et on est présent sur certains, on commence à être présent sur certaines manifestations. Donc on a des flyers, on a une banderole pour faire connaître cette question. On est en lien avec un certain nombre de groupes, d'autres collectifs ou associations qui militent pas forcément sur cette question, mais sur des questions qui nous paraissent connexes. Déjà parce que nous-mêmes, on fait tous partie d'autres associations ou collectifs. Et puis parce qu'on essaye d'aller rencontrer d'autres gens. Donc par exemple, on a fait une réunion avec les jeunes de Youth for Climate qui nous ont interviewés sur cette question de la gratuité des transports en commun et qui semblaient assez intéressés, puisque bien entendu ça touche en particulier les jeunes et les précaires.
Je crois que l'idée vraiment c'est de bien mettre en évidence le fait qu'il y a un lien entre la dimension sociale et la dimension environnementale.
Oui, parce que
si on veut rentrer dans cette question, on est un peu sur des points plus forts, c'est vraiment cette liaison. On ne peut pas envisager Alors, déjà, la gratuité, ça n'existe pas.
Il y a quand même quelqu'un qui paye.
Je suis économiste, je veux dire, la gratuité, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a quelques années, moi, je battais toujours en disant libre accès, libre accès, libre accès. Mais libre accès, ce n'est pas très vendeur en thème comme ça, politique. Donc, on a repris ce thème de la gratuité, mais il faut bien dire que ça n'existe pas. Il y a une production d'abord, il faut produire le bus, le métro, ensuite il faut le conduire, etc. Il y a une production, c'est l'usager, lui, qui est en situation d'avoir un libre accès, et ça s'arrête là.
Voilà, et après, la question, c'est on fait des choix, si on paye ça, on paye pas d'autres choses. Et justement, je me posais la question, pourquoi la gratuité? Tu évoquais la question sociale, oui, c'est pour que tout le monde y ait accès, même les plus précaires, mais il y a également pour que certains quittent leur voiture.
Oui,
et donc on rentre sur les questions environnementales.
Oui, c'est remettre le service public là où il doit être, c'est-à-dire répondre à des besoins sociaux et précaires, et répondre aussi aux enjeux aujourd'hui plus qu'urgents climatiques.
Et rester dans le cadre du service public, c'est-à-dire élargir la dimension, la perspective du service public. Le service public, il est économique, social, démocratique, ça serait bien qu'il le soit un peu plus, et cette dimension aussi environnementale qui peut prendre en compte.
Et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Lucky, tout à l'heure, parce que des fois, à écouter nos adversaires, on a l'impression qu'on est une bande de joyeux ingénus qui pensons que tout peut être gratuit. Comme l'a dit Lucky, on a tout à fait conscience que des personnes devront payer, in fine, les transports en commun. Donc, tous les collectifs qui se battent pour cela connaissent très bien cette question et demandent juste une répartition différente des financements. Et en plus, on demande également, on dit la gratuité, parce que c'est un peu le mot d'ordre qui nous permet d'avancer sur ce sujet. Mais bien entendu, on demande la gratuité, mais aussi le développement, l'extension des transports en commun. C'est une vraie alternative pour nous à un mode de mobilité qui aujourd'hui est dépassé et qui est trop lié à la voiture individuelle.
Oui, l'idée, c'est que la gratuité fasse que, justement, ça freine le développement d'un transport en commun de qualité.
Exactement.
On ne peut poser la question du transport gratuit, de la gratuité, que dans le cadre d'une vision générale de l'aménagement du territoire. Oui. Ça reconstruit, ça redéfinit le territoire, ça redéfinit la vie de la métropole. Hein, quand on dit ville, même à Lyon, je pense qu'il faut parler de métropole. Ça redéfinit cet espace-là, ça crée des besoins. Ça nécessite des moyens. Donc ce sont des questions qu'il faut effectivement aborder tranquillement, sereinement, sans penser que c'est impossible.
C'est-à-dire que ça doit replacer aussi l'ensemble des acteurs sur le sujet, les entreprises, les usagers bien sûr individuels.
Ouais. La collectivité.
Et puis ça pose aussi les mobilités interconnectées.
Complètement.
Oui, les différents modes.
Tout seul, alors que
en fait, transport en commun, éventuellement vélo, etc. Avec donc la mise à disposition de transports capables de répondre à tous ces besoins.
Il faut penser mode doux aussi. Donc, nous, on est axé sur le transport gratuit avec cette idée du métro, du tramway, du bus, etc. Mais c'est vrai qu'il faut penser aussi la complémentarité avec les modes doux, qui sont d'ailleurs la marche, pour commencer. Et puis. Bon, je vais parler du vélo, mais pour englober la totalité, ça va jusqu'à la trottinette, etc. Mais en modérant, là.
Donc, et après aussi, tous les aménagements liés à la voiture aussi, qui doivent être réduits.
Il y a de l'espace public à gagner. À partir du moment où il y a moins de voitures dans la ville, donc il y a cet aspect environnemental, et il y a l'aspect reconquête d'espace public, d'espace et d'espace public mis à disposition de la collectivité. Donc il y a vraiment des choses à conquérir à ce niveau-là qui sont très très importantes. Ça appelle à remodeler. Alors c'est sûr qu'à la Croix-Rousse c'est un peu plus compliqué de remodeler. On est déjà à une densité fantastique, mais ça peut être d'autres lieux qui ont besoin. Notamment, on parle là de l'anniversaire des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est la question de la mobilité. C'est d'abord la question de la taxe, mais la taxe, elle est liée à la mobilité.
Et pas forcément la mobilité en hypercentre, justement.
La mobilité en hypercentre, et notamment, c'est un problème que Paris connaissait depuis très longtemps, mais les relations de banlieue à banlieue. Mmh. Alors nous, on parlera peut-être pas de banlieue à banlieue, mais enfin de Vénissieux à Vaux-en-Velin, à Bron, etc. C'est pas simple de se déplacer, donc il faut l'envisager.
Et les Gilets jaunes, d'ailleurs, revendiquaient aussi une solidarité
complètement
environnementale. Enfin, ouais. Pas une, simplement une solidarité sociale, mais aussi une justice environnementale pour tous.
Absolument.
Je voulais revenir sur cette question de du débat avec beaucoup d'arguments contre cette gratuité, alors qu'il y a certains services publics sur lesquels on ne se pose plus du tout la question. Tout si on fait. Prend l'éducation ou si on
l'école.
Prend la santé.
Mais l'école. Voilà.
Ouais. Alors on ne se pose pas la question, je pense que certains se la posent,
question, mais...
malheureusement. Mais oui, tout à fait, c'est un des arguments qu'on avance. En fait, à chaque fois qu'on nous dit la gratuité n'est pas possible, je pense que c'est exactement le type de mesure qui, lorsqu'elle n'a pas encore été mise en place, beaucoup la pensent impossible. Et finalement, en la mettant en place... Et d'ailleurs, nos détracteurs nous disent sur les grandes villes, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, ils admettent que sur des villes de taille moyenne, c'est possible, voire même souhaitable dans certains cas. Et moi, j'ai lu des choses comme quoi à Dunkerque, avant de la mettre en place, on leur disait aussi non, mais vous faites une grosse bêtise, ça ne va pas marcher. Et finalement, on voit que tous les signaux sont ouverts sur Dunkerque.
Et justement, quels sont les retours sur les villes qui ont pu mettre en place la gratuité, et notamment depuis longtemps?
Alors c'est surtout Châteauroux depuis longtemps. C'est une augmentation conséquente du trafic. Alors il y a deux aspects, parce que je vais revenir à très proche. C'est Dunkerque. Dunkerque, il faut dire que il y avait très peu d'utilisation des transports en commun. C'est un niveau très très bas, contrairement à Lyon par exemple, où il y a un niveau très fort d'utilisation des transports en commun. Les villes ont gagné énormément. Il y a eu Aubagne aussi. Ces villes ont gagné. Elles ont généralement été proches du doublement de leur un an, deux ans de leur
fréquentation.
De leur fréquentation, merci. Et également. Alors après, on y reviendra. Il y a les transferts modaux, le transfert modal qui peut jouer. Les gens qui étaient à pied prennent pas forcément le transport en commun. Ceux qui étaient en voiture le prennent, mais pas tous. C'est un peu. Mais ça joue de toute façon assez favorablement. Et dans ce sens-là, je voudrais dire, on a aujourd'hui deux villes qui se posent la question. On n'est pas encore en train de déboucher, mais qui se posent la question. C'est Nantes et Lille. Là, on est sur des villes qui sont des villes sérieuses. C'est pas aussi grand que la métropole. Voilà, c'est pas aussi important que la métropole de Lyon, mais c'est très très proche. Et j'étais il n'y a pas très longtemps à Lille. À Lille, vous avez un métro tous les deux minutes. C'est le fameux Val, sans chauffeur, etc., qui circule. Donc là, s'ils envisagent ça, c'est bien qu'ils envisagent qu'il va y avoir des possibilités encore d'étendre. C'est surtout sur la périphérie, c'est pas uniquement c'est pas bien sûr le centre-ville. Et ça pose des questions, le centre-ville. Vous avez des gens comme. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui travaille dans un laboratoire de transport qui me dit les gens de Vaux-en-Velin, ils vont venir à la Part-Dieu. Ils n'iront pas ailleurs. Parce qu'il y a une espèce de carte mentale qui joue. Mais la gratuité, justement, peut peut-être permettre de sortir de la Part-Dieu avec son centre commercial, etc., pour aller ailleurs. Et puis, pour aller dans d'autres endroits, il n'y a pas que les centres commerciaux.
Oui, de ne pas être bloqué par le ticket qui dure une heure, donc je n'irai pas voir ailleurs. Je ferai juste un aller-retour.
Oui, tout à fait.
Par contre, donc, tu disais, Dunkerque, ils avaient une très faible fréquentation. Ouais. Sur une ville comme Lyon, où c'est quand même déjà très, très, très fréquenté, ça veut dire que les gens y payent et ils sont là. Alors la gratuité, elle apporterait quoi? Ou alors il faudrait augmenter les capacités.
Il faut faire attention parce que c'est nous. Enfin, moi, je suis du centre-ville. Donc quand je suis à Bellecour, je suis à Terreau, je suis... Les métros sont pleins, le bus est plein. C'est pas aussi évident, y compris à Vénissieux, à Bron, à Vaux-en-Velin, etc., que les bus soient pleins, si ce n'est le matin aux heures de. Mais ça permet aussi, c'est là où on a des aspects de la gratuité qui sont très importants, c'est le lien social. C'est-à-dire des gens qui ne se déplacent pas, parce qu'ils restent dans leur banlieue, et la gratuité du bus, du métro, leur permet de se déplacer, et leur permet de refaire société, de refaire lien.
Et d'avoir accès à la ville, et pas seulement au transport.
Voilà.
Ah oui, moi je pense, quand tu dis ça, à l'exemple du tramway de Clermont-Ferrand, hein, parce que moi j'ai habité à Clermont-Ferrand pendant longtemps, et donc lorsque le tramway a pu relier la zone nord au centre-ville, ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire pour les populations qui y habitaient, hein, pour les jeunes aussi. Alors ça a fait un peu peur, hein, de voir arriver toutes ces bandes de jeunes des quartiers nord en ville. Mais depuis, tout le monde, bien sûr, voilà. Et donc ça a permis à ces personnes de venir en centre-ville et donc de reconnecter une partie de la ville à une autre.
Voilà.
Parce que c'est ça, en fait.
C'est très important. De faire société.
De faire société.
De refaire société. Alors, en évitant les incivilités, les cassages de gueule, les trucs comme ça, mais de refaire société. C'est très important. Mais quand on discute, par exemple, avec des profs de l'EP, de lycée professionnel, qui sont dans les banlieues, ils disent, nos élèves ne connaissent pas le centre-ville. Ils ne viennent pas. Donc nous, on a l'impression que tout le monde se déplace parce qu'on va ici, là ou ailleurs, sans difficulté. Eux n'y vont pas, ne viennent pas. Donc c'est aussi une ouverture. On peut juger que c'est pas une ouverture fantastique de faire la rue de la République, mais c'est très important de se retrouver avec les autres.
Donc quand on parlait de l'idée que si c'est gratuit, donc ça n'a pas de valeur, donc incivilité, il n'y aura pas de respect, en fait finalement ça donne une valeur, le fait de pouvoir y accéder.
Ça donne une valeur, et on constate dans les endroits où il y a eu gratuité que c'est l'inverse qui se produit. La gratuité fait que les gens ne trouvent pas nécessité de taguer.
Il n'y a pas de valeur marchande déjà.
Ça limite. Il n'y a plus de contrôleurs, ça limite quand même l'acrimonie.
Justement, tu disais, il n'y a plus de contrôleurs, parce qu'on se dit effectivement, on ne paye pas de billets, donc il y a moins de recettes, mais il y a peut-être aussi moins de dépenses, justement, pas de contrôleurs où ils feront autre chose.
Alors oui, on peut gagner un peu de dépenses si on passe à la gratuité. Vous parlez des contrôleurs, mais il y a déjà toute la partie billettique. Donc c'est difficile d'évaluer ces dépenses-là, on n'a pas forcément les chiffres dans le détail. Il ne faut pas imaginer que pour une ville de la taille de Lyon, ça suffirait à couvrir les manques de dépenses. Et donc on ne le dit pas. C'est vrai sur des plus petites villes, mais pas sur la métropole lyonnaise. Par contre, pour ce qui est des contrôleurs, je sais que à Dunkerque, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres villes qui sont passées à la gratuité, ils n'ont pas été licenciés. Ils ont été reconvertis à d'autres postes, notamment pour favoriser le lien dans les transports, pour qu'il y ait une forme de sécurité, notamment le soir ou pour des horaires un peu tardives. Donc voilà, on a reconverti les contrôleurs, donc il y a toujours... les salaires à payer dans tous les cas. Donc c'est pour ça on ne gagne pas forcément grand chose en termes de coûts quand on passe à la gratuité, et on n'axe pas notre argumentaire là-dessus.
Non, mais on gagne du service, on gagne du social et du lien social.
Donc de la redistribution.
Oui, on change le dérègle de service, en fait. On ne vend plus des billets, on fait autre chose.
Oui. Et je voudrais, pendant qu'on parle un petit peu d'économie, revenir un peu sur cette idée des fois d'adversaires qui vont essayer de mesurer, oui mais si on gagne tant de centimes ou tant d'euros en économisant les billets, combien de personnes vont se reporter sur le bus ou sur les métros, mais en fait les gens ne raisonnent pas comme ça. Et moi j'ai lu des articles là-dessus sur la gratuité, en fait c'est un prix très particulier en termes économiques, qui a pas du tout le même impact psychologique qu'une diminution juste du prix, par exemple une division par deux. Et ce qu'on observe, notamment sur Dunkerque, où les différents organismes ou les collectivités ont été très surprises de constater que certaines personnes qui avaient le droit à des abonnements très peu chers, à moins de 10 euros par mois, ne les prenaient pas parce que c'était compliqué pour eux. Donc il y a vraiment un effet très très fort d'accès à ces transports en commun par des personnes les plus précaires.
Là, on a une idée forte, enfin à mon avis, mais il faut bien la comprendre. C'est-à-dire qu'on met en cause les tarifs sociaux. On considère que les tarifs sociaux... On me laisse finir ma phrase pour que ça me saute dessus. Les tarifs sociaux sont une discrimination. Ils mettent à l'index ceux qui utilisent ces tarifs sociaux et qui les utilisent d'ailleurs plus ou moins, pas forcément bien.
Il y a quand même
bien.
Beaucoup de non-recours à
voilà.
ces tarifs.
Exactement.
Alors que, donc, il est bien évident que aujourd'hui, il faut que chacun qui a droit au tarif social en profite.
C'est une nécessité.
C'est une nécessité. Mais on voit bien dans le tarif social qu'il y a un aspect discriminatoire.
Puis il y a un aspect stigmatisant. Il faut toujours prouver, il faut toujours amener des papiers.
Amener les papiers, etc. Avoir le RSA, CMU, truc, machin, chose. Et c'est à ce moment-là qu'on peut bénéficier de ces tarifs sociaux. Donc ça nous convient pas à ce niveau-là. Il y a un aspect, oui, discriminant qui est fort.
Il y a le discours aussi, mais alors ceux qui sont riches, qui payent leur billet, pourquoi on leur offrirait ?
Et ceux qui vont à l'école qui sont riches, on en parlait tout à l'heure,
voilà. Effectivement.
Oui, c'est un argument qu'on retrouve beaucoup, et donc je pense que c'est important de prendre le temps de le démonter, ou en tout cas de dire pourquoi nous on n'est pas d'accord. Moi on m'a rétorqué par rapport à la gratuité, mais c'est une mesure injuste, puisque vous privez la collectivité des recettes de personnes qui peuvent les payer. Mais en fait, la meilleure manière de redistribuer, c'est pas les tickets, c'est les impôts, c'est les cotisations, etc. Et donc, les riches, vous pourrez les faire payer d'une autre manière. Et donc, on a fait des petits calculs, on pourra revenir dessus si ça vous intéresse, de ce que coûterait la gratuité à la collectivité par habitant, etc. Mais en tout cas, bien entendu que quelqu'un paiera, et les personnes qui paieront, et qui payent déjà, bien entendu, ce sont les entreprises et les collectivités. Et à travers les entreprises et les collectivités, bah, c'est les salariés et les citoyens. Donc, au final, on est bien d'accord que c'est des individus, de toute façon, qui payent, mais de manière mieux redistribuée.
Il y a une idée forte, là. C'est notamment le versement transport des entreprises. Qui en particulier à Lyon est à 1,8%, la loi le plafonne,
exactement.
Oui, la loi le plafonne à 2%, donc il n'y a pas beaucoup à gratter à ce niveau-là.
C'est 2% de quoi?
De la masse salariale.
Il est calculé sur la masse salariale de l'entreprise. Oui, c'est important, d'entreprises de plus de 11 salariés. C'est pas le petit artisan du coin, le petit commerçant. Mais cet aspect-là, il est quand même très important de montrer que ces entreprises, je pense notamment à toutes ces entreprises du commerce, les centres commerciaux, etc., toutes les entreprises du centre-ville, bénéficient en fait du transport en commun de la financé par la collectivité locale et pour lequel elles payent très peu. Donc, dire qu'on peut les imposer n'est pas... alors après, ça peut, on peut envisager ça avec des modulations et autres, ça dépend des situations, mais il y a effectivement beaucoup à gagner à ce niveau-là. Parce que c'est un service rendu à une entreprise privée qui va s'en servir pour ses bénéfices, tout simplement. Et sans payer une part conséquente du service qui lui est rendu. Et en plus, les salariés peuvent bénéficier du transport en commun pour arriver à... Alors ça, là, la prise en charge, il faudrait qu'elle soit pour tout le monde. Là, de ce point de vue-là, on revendique qu'elle soit pour tout le monde la prise, et à 100% dans l'entreprise.
Oui, après si c'est la gratuité fait que la question ne se poserait plus.
Ah oui, si, elle se pose. Le versement transport, ça va être un des éléments du financement.
Mais aujourd'hui, oui, le l'employeur, oui, mais le remboursement à moitié.
Ah oui, aux salariés, oui. Salariés, oui, alors il faudra trouver une autre façon que cet argent soit orienté vers...
Et il faudra aussi que cet argent, même s'il n'y a plus de...
Soit réutilisé.
Il n'y a plus de paiement de la part du salarié, il faudrait que cette part, elle reste quand même, parce que les entreprises auront toujours le service.
Tout à fait.
Effectivement. Je vous propose qu'on continue après une pause musicale.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le point point sonneur des lilas. Pour un valide changé à opéra, je vis au cœur de la planète. J'ai dans la tête un carnaval de confettis. J'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas. Arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Et donc vous avez tous reconnu Serge Gainsbourg, le poinçonneur des lilas. Et justement, parce que notre émission est consacrée à la gratuité des transports, donc la fin des poinçonneurs.
Ils sont partis depuis longtemps.
Donc oui, on se retrouve avec le collectif pour la gratuité des transports en commun de Lyon. Donc on a abordé notamment un peu la question sociale, la question des fondements aussi du service public. Il y a également une autre raison pourquoi la gratuité des transports en commun, c'est envisager le report de la part de modes polluants, notamment la voiture.
Oui, exactement. La question de la gratuité des transports en commun s'inscrit dans, on l'a dit au début de l'émission, dans une perspective beaucoup plus générale de repenser la ville et de repenser la mobilité. J'ai besoin de citer quelques éléments de contexte pour pouvoir parler de ce sujet, parce qu'il me paraît important. Donc, je voudrais rappeler que par rapport au réchauffement, à la question du réchauffement climatique dont tout le monde entend parler, aujourd'hui on est à peu près à une élévation de température moyenne à la surface du globe de 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, et que le dernier rapport du GIEC montre que pour préserver des conditions décentes de vie sur Terre, pour la majeure partie de la population et pour les animaux, les plantes, etc., il faudrait pouvoir limiter ce réchauffement climatique à 1,5 degré. Autant dire que nous en sommes loin, sachant que l'ensemble des engagements pris à la COP21 à Paris conduisent à un réchauffement d'environ plus 3 degrés, et que pour l'instant, on a du mal à respecter ces engagements. Donc on voit qu'il y a un enjeu majeur, ça c'est sur le réchauffement climatique, mais il y a d'autres enjeux environnementaux. Il y a la question de la pollution et de la santé. On évalue aujourd'hui à 42 000 le nombre de morts par an liés à la pollution. C'est une pollution qui n'est pas seulement lié à l'automobile, également au chauffage ou encore à l'industrie, mais on estime que la pollution notamment liée à l'automobile et au camion compte pour à peu près un tiers de cette pollution globale. Et on sait qu'à Lyon, les seuils de pollution sont régulièrement dépassés. Il suffit d'aller par exemple sur le site de l'ATMO qui fait ses études et qui publie les niveaux de pollution pour voir très clairement que les niveaux de pollution les plus élevés sont atteints sur les routes principales. On a un collectif à Lyon qui lutte pour que l'école Michel Servet puisse enfin avoir des seuils de pollution en dessous des normes demandées par l'Union européenne. Juste aujourd'hui, on est régulièrement, donc depuis 2011, à des quantités de dioxyde d'azote de 50 à plus de 70 microgrammes par mètre cube et par an, alors que le seuil préconisé est de 40 microgrammes par mètre cube et par an. Donc, c'est bien entendu un problème majeur qui touche tout le monde. Ensuite, on a la destruction des écosystèmes. On a un récent article de Nature qui dit que, qui a étudié pendant les 10 dernières années sur 3 régions d'Allemagne, un nombre conséquent d'espèces, je crois qu'il y a plus de des milliers d'espèces, 1 million d'individus, qui a montré très clairement, donc c'était sur des arthropodes, qui a montré une disparition majeure de ces espèces. Donc je crois 3/4 des individus et à peu près 1/3 des arthropodes. Alors vous pouvez me dire, mais quel est le lien avec la gratuité des transports en commun? C'est qu'il faut changer de système de déplacement. Il faut absolument reconfigurer l'espace social. Et on pense clairement que ça va se passer à la fois par les transports en commun et par des mobilités douces. Mais il est urgent de réduire la place de la voiture.
Et quand on parlait d'interpeller des élus, pas oublier que la métropole, on a eu à la radio le collectif Coalition Climat Rhône qui a travaillé sur le plan climat de la métropole, ce plan climat qui effectivement parle d'action en matière de transport. Donc leur proposer la gratuité justement pour faire baisser la part de la voiture.
Tout à fait
pertinent.
Mais la pollution, un rapport du Sénat estime que la pollution coûte en France 100 milliards d'euros. Ça donne une idée par rapport à tous ceux qui nous disent c'est impossible, ça coûte trop cher de rendre le transport gratuit. On voit que ce que l'on peut gagner par rapport à la pollution, qui notamment a des effets sur, Vincent vient de le citer, sur la santé. L'un des éléments clés de la pollution, c'est cette détérioration de la santé des enfants et autres. Parler de l'école Michel Servet, c'est l'école dont la cour se trouve en bénéficie en fait des éléments d'extraction d'air du tunnel de la Croix-Rousse, pas de Fourvière, de la Croix-Rousse. Et là, il y a une bataille sans arrêt depuis des années sur cette situation qui est une situation dramatique et sur laquelle il ne se passe rien.
En fait, il faut penser globalement les dispositions pour lutter contre la pollution, pour faire aussi des économies, parce que si on limite l'accès des voitures en ville par justement en favorisant l'accès en transport en commun, on va sans doute pouvoir utiliser des surfaces qui sont aujourd'hui des surfaces vides, payantes, comme les parkings, à d'autres fins, peut-être à des créations de jardins, éventuellement partagées, etc. Ça va aussi de pair, moi je trouve, même si c'est des modes de dispositions différentes, mais contre la lutte aussi contre la pollution lumineuse, par exemple la nuit, qui atteint aussi la biodiversité. Voilà. Donc c'est un ensemble de mesures qui doit être inscrite aujourd'hui dans cette urgence climatique.
Et puis tout à l'heure,
qui devient une urgence sanitaire.
Et on parlait de la question, quand on parle gratuité, on parle coût aussi. Et là, on voit bien que si on ne raisonne pas globalement également sur les coûts évités, parce que le chiffre de 100 milliards d'euros, le coût de la pollution est énorme, eh bien, on n'a pas la vérité des chiffres.
Il y a des possibilités énormes. On peut citer le travail que font ce qu'on appelle des géographes, qu'on appelle les territorialistes, dont Alberto Magnani est quand même le principal acteur sur le développement de la biorégion urbaine. C'est un praticien, c'est pas seulement un théoricien. C'est un praticien qui travaille sur la plaine du Pô en Italie, en réutilisant en fait tout le paysage, tout le territoire, la biomorphologie hydraulique, etc., les coteaux, les plaines, et ensuite la ville, qu'on peut retravailler et ouvrir la ville à la nature. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu d'avoir une ville qui est toujours une ville de bétonnée et autres. Là, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Bon, Murray Bookchin aussi a fait, à sa façon, a aussi réfléchi sur ces questions-là. Et je crois que c'est très important de le prendre en compte, parce qu'on lit bien à ce niveau-là la dimension sociale et la dimension environnementale.
Le développement des transports publics en commun a-t-il un effet aussi sur le coût global énergétique? Est-ce qu'on économise finalement en coût énergie?
Ah oui, bien entendu. Parce que un bus, c'est évident, qui consomme plus qu'une voiture. Mais par rapport au nombre de personnes qu'il peut véhiculer, vous pouvez avoir aussi, on en parle moins et on l'a moins à l'esprit, mais c'est des moteurs en général très robustes. Enfin, j'ai pas en tête combien un bus peut rouler, mais je pense que c'est sans commune mesure avec la plupart des voitures des particuliers. Donc il faut vraiment sortir de cette vision un peu individualiste, mais dans laquelle beaucoup de gens, j'en ai conscience, sont contraints, de la voiture individuelle. C'est vraiment, je pense que la voiture individuelle, c'est le 20e siècle en fait, c'est le siècle de la voiture et du pétrole. Et si on veut s'en sortir, il faut vraiment sortir de ça et reconfigurer l'espace. Et pour vraiment refaire le lien avec la question de la gratuité, parce qu'on a des adversaires qui peuvent être d'accord avec à peu près tout ce qu'on dit, mais ils disent la gratuité n'est pas la manière la plus efficace de développer le transport en commun. Donc je voudrais juste dire deux éléments. Les études, y compris nos détracteurs, qui parlent de la gratuité, montrent qu'en fait, si on passe à la gratuité, ça augmenterait très fortement la fréquentation. Alors il y a des débats entre eux et nous sur est-ce que ça augmente la fréquentation de la part de personnes qui venaient en voiture ou à pied. On n'est pas d'accord sur ce point et on pourra y revenir.
Mais sur les villes qui ont mis en place, on a quoi comme résultat en termes de report
sur Dunkerque et sur d'autres, c'est très net. On a, alors bien entendu qu'on a des gens qui marchent ou qui prennent le vélo, qui vont prendre les transports en commun. Soit dit en passant, j'ouvre une parenthèse, mais c'est pas, on a l'impression qu'il y a un bon report de la part des automobilistes et un mauvais report de la part des personnes qui sont à pied. Mais si c'est des personnes à pied, ou même, encore mieux, des personnes qui ne se déplaçaient pas parce qu'elles étaient exclues socialement, parce qu'elles ne pouvaient pas se déplacer et parce qu'elles ne pouvaient pas se payer les transports en commun, ça peut être des personnes qui vont à pied, mais qui souffrent de venir à pied. Donc, toute personne qui était à pied et qui passe en transport en commun, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ensuite, moi je suis principalement cycliste. Je peux vous dire que la plupart des cyclistes que je connais ne vont pas prendre les transports en commun parce que ça devient gratuit. On prend le vélo pour tout un tas de raisons et pas pour très très peu de gens prennent le vélo parce que les transports en commun sont trop chers. Donc bien entendu qu'il y a un report modal de la voiture vers les transports en commun. Et ce qui est montré dans les études, encore une fois, y compris de nos détracteurs, c'est qu'on observe une augmentation de la fréquentation qui est importante. Et donc aujourd'hui, le problème sur des villes des métropoles comme celle de Lyon ou comme celle de Paris, c'est que les transports en commun sont déjà plus ou moins saturés et donc ça nécessite un accroissement de la fréquence et du nombre de lignes. Et ça, on est tout à fait d'accord et on sait que ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Donc on a bien conscience que c'est quelque chose qui se prépare, au moins sur un mandat, voire sur peut-être encore...
Et on ne prépare pas seulement les esprits, on prépare aussi le réseau à ça. Voilà.
Exactement.
À Aubagne, ils ont doublé la fréquentation des transports en commun, ils ont diminué quand même de 10-15% le trafic.
Voiture.
Parce que c'est, oui, voiture. Parce que c'est pas aussi simple que ça, de diminuer le trafic voiture. Les gens qui viennent de je sais pas, de Genasse, des choses comme ça, c'est plus difficile pour eux de venir en transport en commun. Mais ça, il faut le réfléchir. Ce sont des choses à réfléchir. Les navettes servent à ça aussi, etc.
En fait, le développement des transports, par augmentation de la fréquentation, ça oblige aux élus, mais aussi à tous les acteurs concernés, finalement, à réfléchir l'organisation de la cité.
Oui, tout à fait.
Parce qu'à chaque fois qu'on organise un nouveau mode de transport, qu'on crée une ligne de tramway, on repense aussi l'urbanisme. Je pense toujours à Clermont-Ferrand. Le centre-ville a été complètement réaménagé et joliment réaménagé grâce finalement à l'implantation de ce tramway.
Absolument.
Et je pense qu'ailleurs, ça sera pareil. Oui. Bon, je lisais dans la presse il n'y a pas très longtemps aussi que par exemple le maire de Saint-Étienne avait favorisé plutôt alors que bon, apparemment la fréquentation était faible sur une ligne, a plutôt valorisé l'organisation et l'augmentation d'une ligne par le tramway, alors que aujourd'hui la fréquentation est faible, en disant mais ça permettra une augmentation de la fréquentation et puis de toute façon un remodelage de l'espace urbain. Quand on repense
ligne, globale,
voilà, c'est une aussi globale, une conception globale urbanistique.
C'est une conception à terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'immédiateté de dire ben, je mets la gratuité, donc demain j'ai 200% d'augmentation. C'est quelque chose qui se construit, qui se travaille avec les gens aussi. Il y a un travail de formation aussi à la gratuité du transport, à l'utilisation du transport. Alors les gens qui veulent aller à pied continueront à aller à pied, mais et puis c'est très bien pour eux. Mais l'utilisation du c'est quand même le droit d'aller et de venir, c'est la liberté de se déplacer qui est en cause. C'est le droit à la mobilité. Paul Ariès, dans un article de L'Humain, hier, il dit, il cite un truc que j'avais jamais entendu, si on a 26 ans et qu'on est encore en transport en commun, on a raté sa vie. Margaret Thatcher. Extraordinaire. À 26 ans, t'es encore en
et là,
en
on voit que c'est pas la gratitude qui dévalorise le transport.
Voilà. C'est autre chose. Et Rivalta, qui était le président du Citral, qui était socialiste colombien, déclarait pour les fraudeurs pauvres, il fallait pas qu'ils prennent le transport. Ne prenez pas les transports, les pauvres, ne prenez pas les transports. Ou vraiment quand vous en avez vraiment besoin. C'est extraordinaire. Quoi. C'est la liberté, les libertés fondamentales. Assignées à résidence, à tenir les murs dans leur site.
Et donc, c'est vrai, c'est une question même au-delà de l'accès, c'est une question de liberté.
C'est la liberté. Hein, c'est le transport, c'est la liberté d'aller et de venir, c'est la liberté de rencontre, c'est la possibilité de travailler, parce que si vous n'avez pas. Là, ils sont en train de réfléchir sur le transport jusqu'à 2 heures du matin. Ouvrir. Alors ils le font pour les vendredis, samedi. Bon, mais moi je vais pas discuter de ça. C'est bien, mais vous avez des tas de gens, et notamment des femmes, qui doivent quitter leur boulot à minuit, à 11h, 11h30, minuit. Il y a plus de ligne, il y a plus de bus, il y a plus de. On les empêche de travailler.
C'est vrai que cette vendredi, samedi jusqu'à 2h, on a l'impression que la réflexion elle s'est faite par rapport aux fêtards, alors
bien
que
sûr,
dans les hôpitaux. Il y a justement
les femmes à la Croix-Rousse, il n'y a plus de métro. Voilà. À la sortie, à 1h du matin, les salles des urgences, puisqu'ils viennent d'ouvrir les urgences, il n'y a plus de métro. Elles se dépatouillent comme elles peuvent. C'est quelque chose qui est invraisemblable. Et donc, c'est une liberté culturelle, c'est la liberté pour la culture. Vous pouvez vous déplacer, aller à tel spectacle et autres. Vous pouvez vous former, vous pouvez. Le transport, c'est vraiment un droit. La gratuité des transports, c'est vraiment un droit fondamental à mettre en œuvre. Et qui est effectivement au même titre que l'école, que l'hôpital, etc. C'est vraiment très très important à ce niveau-là.
Et cette question de la liberté, je pense qu'il faut être très clair parce que il y a des adversaires politiques, on peut le dire comme ça, qui l'utilisent beaucoup aussi. Et je pense qu'il y a différentes ici visions de la liberté qui s'affrontent avec des gens pour qui la liberté, c'est le fait de pouvoir acheter un peu ce qu'on veut à partir du moment où on en a les moyens, avec derrière la tête l'idée que si on a les moyens, c'est qu'on le mérite. Mais pour moi, que chacun ait sa voiture individuelle avec tout ce que l'on sait de ce que ça entraîne, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est aussi c'est comme l'a dit Lucky, c'est de pouvoir accéder à un certain nombre de services qui permettent de répondre à des besoins essentiels, mais c'est pas de pouvoir faire ce qu'on veut et n'importe quoi. Et donc, en cela, le transport en commun permet un accès des plus égalitaires à tout le monde. Et aujourd'hui, je vous cite juste un chiffre parce que ça m'a marqué, j'ai cherché des choses là-dessus, je pensais pas que c'était à ce point-là. Aujourd'hui, depuis début 2019, le nombre d'immatriculations des nouvelles voitures, c'était 40% de SUV. Donc, en gros, de 4x4, quoi. C'était 22% en 2015. Pour la deuxième année consécutive, les émissions au kilomètre par les véhicules nouvellement en service, donc je ne parle pas du parc, on peut dire qu'il est vieillissant ou quoi, des nouveaux véhicules a augmenté. On est très très loin des objectifs qui ont été promus. Et cela, les différentes mesures qui ont été mises en place par la métropole en faveur des modes doux ou de la mobilité n'ont pas suffi à enrayer ce phénomène. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une confrontation d'idées dans la société et qu'il faut vraiment à la fois empêcher une certaine utilisation du véhicule individuel, et pour cela il faut absolument qu'on développe plus les modes de transport collectif et qu'on le développe d'un point de vue le plus sociable possible, et le mieux pour cela c'est la gratuité.
Oui, surtout que dans une métropole effectivement grande et riche, où on n'empêchera pas les riches d'acheter leur SUV s'ils en ont envie.
Voilà, c'est pour ça que.
Et d'où à compenser ?
Là, je sors un peu des positions du collectif. Moi, à titre individuel, c'est très clair pour moi qu'il faut freiner par différentes mesures l'utilisation de la voiture, mais pas le faire de manière assez idiote, excusez-moi du terme, comme l'a fait le gouvernement avec une taxe qui est complètement injuste, mais de manière la plus ciblée possible, et d'abord en donnant des solutions à tout le monde de se déplacer pour répondre à des besoins. Et d'ailleurs, je voudrais dire, des fois on utilise un peu l'argument pour dire oui, mais si on empêche des populations de venir en voiture, ça touche d'abord les plus pauvres. Mais c'est pas nécessairement vrai, et c'est pas vrai notamment sur une métropole comme Lyon. On voit bien que les villes les plus pauvres, avec le plus de personnes en situation de précarité, sont finalement assez proches de Lyon, mais avec des transports insuffisants et puis trop chers pour eux, et on va avoir des classes un peu plus aisées qui vont s'éloigner et qui vont pas hésiter à acheter des véhicules relativement chers pour pouvoir faire ces trajets.
Et il faut assurer le service public. Il y a une rénovation du service public à faire, à la fois dans ses objectifs, dans ses moyens. Il faut rappeler quand même que le service public à la française, il a une particularité, c'est son personnel formé et sous statut qui lui donne toute sa force. Personne n'a relevé la semaine dernière que c'est des agents EDF qui sont allés remettre l'électricité dans la Drôme et en Ardèche. On en a pu parler, on parle beaucoup de leur statut merveilleux, mirobolant, etc. à d'autres moments. Mais là, quand ils sont les pieds dans la neige et qu'ils font pylône par pylône, on n'en parle pas beaucoup. Et je crois que cet aspect du service public, c'est aussi de se donner les moyens et de mettre l'argent là où il faut, et non pas dans les aspects privés et autres. Je pense, dans une campagne électorale, on s'était retrouvé à Tizi. À Tizi, les bus sont censés arriver, ils arrivent d'ailleurs plus ou moins, mais les gens doivent prendre le ticket de métro, payer leur ticket sur des machines, là, des automatiques, mais sauf quand ils ne marchent pas. Donc ça vous incite à la fraude, mais c'est pas ça l'enjeu. C'est quand la machine ne marche pas ou si le bus ne vient pas jusque là. On a des situations invraisemblables. Donc c'est vraiment repenser tout le service public, déjà les transports, mais les autres aussi, bien évidemment.
Et aussi communiquer dessus, comme vous le faites, et notamment sur la gratuité. On évoquait aussi tous les arguments contre lesquels il faut se battre. Ce que tu citais sur les SUV, c'est pas du tout la communication globale. Aujourd'hui, les voitures, elles sont propres, les voitures, elles sont électriques. Aujourd'hui, la voiture, elle est plus si méchante que ça.
Elle fait partie de tout un discours avec discours le même dominant. Modèle libéral, capitaliste, dominant. La voiture... Regardons les publicités liées à la voiture. Effectivement, c'est les images de liberté.
Il y a les femmes sur les images.
Oui, pas que. Mais en fait, on est encore dans un modèle qui confronte, je veux dire, la réussite sociale pour les qui confond réussite sociale avec mérite, etc.
Et puis qui a fait que maintenant la voiture est propre, donc ce n'est plus un problème.
Ça a quand même beaucoup évolué entre ma génération et ce que je vois, ne serait-ce que mes fils. Ça a quand même beaucoup évolué. Il y a des siècles, non pas tant que ça pour moi, vraiment un investissement dans la voiture. Moi, je roule en 4L, c'était pas un investissement phénoménal. Mais il y en avait vraiment qui voulaient des voitures de sport, de trucs, de machin. C'est quand même beaucoup passé cet aspect. Et investissement, la voiture faisant l'homme.
Alors, ça veut pas dire que tu as raison, Lucie.
Non, je pense que ça.
La publicité, elle a encore.
À la publicité, elle continue à pousser, mais. On va repasser.
Donc, on parle de la gratuité.
Voilà, ouais, on parle de la gratuité.
Parce qu'on veut développer les transports.
C'est ce que vous soulevez.
Et rendre le service public à ce qu'il doit être, c'est-à-dire un service universel aussi.
Est-ce que vous soulevez une question essentielle? En fait, il faut vraiment dire et redire que la voiture individuelle n'est pas propre. On sait bien les problématiques du véhicule électrique. Si on regarde une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire en regardant l'énergie qu'il a fallu pour produire cette voiture, et notamment la batterie, et les émissions de gaz à effet de serre qui vont avec, on voit bien que c'est pas du tout un véhicule propre.
Une petite incidente qui plaira d'ailleurs à Attac, c'est que s'il y a un tel silence en France sur le coup d'État fasciste en Bolivie, c'est bien parce qu'il y a du lithium. Et vous avez remarqué que Macron s'est pas précipité pour condamner le coup d'État en Bolivie. C'est quand même à signaler parce que c'est un des foyers les plus importants de lithium au monde. Bien qu'il semblerait qu'on en trouve en Alsace, mais bon, on verra.
Donc il reste quelques minutes oui. là avant la fin de l'émission. Donc ce qui serait peut-être bien, c'est de nous dire donc vos actions prochaines. Comment vous êtes, puisque vous aviez commencé par dire tout au début de l'émission, vous alliez interpeller les élus. Vous allez profiter des élections municipales 2020 pour interpeller les élus sur le sujet. Donc quelles sont vos prochaines actions et comment vous allez les faire connaître?
Et également les actions auprès de auprès du grand public. Parce que l'idée aussi, c'est pour nos auditeurs, comment on peut aussi s'investir? Est-ce qu'il y a des réunions aussi pour les personnes du collectif qui veulent...
Ouais, je crois que dans l'immédiat, on a une réunion prévue le 3 décembre. On a invité les élus de la métropole à participer à notre réunion, donc des groupes politiques. On a invité les syndicats. Et on a invité un certain nombre d'associations. Donc on veut essayer de trouver des points d'appui pour cette campagne. D'abord connaître tous leurs positions. On n'est pas toujours sûr, autant au bien commun dont je fais partie, on a un soutien plus explicite, autant là je ne suis pas certain que certains groupes politiques se situant quand même plutôt dans notre environnement soient prêts à s'engager, on le verra. Les syndicats là aussi c'est la même chose et les associations on verra. Donc on va essayer de trouver un point d'appui. Je dirais que faire attention avec les municipales parce que les municipales vont nous servir comme tous ceux qui se préparent à la campagne à parler aussi du transport gratuit, mais c'est bien que d'ici le mois de mars, on n'aura pas résolu le problème. Donc on sait qu'on va continuer un certain temps à ce niveau-là. Et donc développer à partir du début janvier une campagne beaucoup plus axée sur pétitions numériques ou physiques, d'aller faire signer sur les marchés et de continuer à essayer de faire des réunions publiques pour populariser un petit peu ces thèmes-là.
La réunion du 3 décembre, elle est ouverte
Non, on a invité ces...
C'est sur invitation.
Voilà, oui. Non, on le fait pour pouvoir discuter solidement les uns avec les autres, faire connaissance et essayer de trouver des points d'appui.
Mais il y a bien des réunions publiques.
Alors j'ai dit, après, on en a fait deux, là. Vincent en a rappelé une, moi j'avais évoqué une qu'on a fait récemment à la Maison de l'écologie et on compte bien en faire encore sur toute la métropole. Alors après il faut trouver, faut s'engager. On a justement donc il va lancer un appel pour.
Voilà. Alors donc il y a au moins 3-4 choses différentes suite à la réunion qu'on va faire avec les élus. On aimerait bien aussi organiser une conférence de presse certainement en courant décembre. Donc ça c'est une première chose. Des réunions publiques comme les deux que nous avons fait à la Maison de l'écologie, on aimerait en faire d'autres. On se dit que d'ici les municipales, ce serait bien qu'on en fasse à peu près une par mois. Donc on va continuer à travailler là-dessus. Sinon, nous avons des réunions qui sont ouvertes aux nouvelles personnes qui sont intéressées par le sujet toutes les deux semaines. C'est souvent le lundi ou le mardi, toujours à 18h30. On les fait très régulièrement à l'Alternative Bar, sauf quand il n'y a plus de place. La prochaine, notamment, il n'y a plus de place, donc on le fait dans un café qui est à côté de l'Alternative Bar. Je pourrais vous redonner, peut-être à la fin, là, j'ai plus en tête l'adresse exacte. Ah oui, c'est au comptoir Odessa, rue René Lénaud, dans le premier. Et donc ça c'est toutes les deux semaines, 18h30, et la prochaine c'est le lundi 2 décembre, voilà. 18h30, comptoir Odessa. Donc voilà pour ce qui est de nos réunions ou de travail, on va dire, où on essaye d'avancer sur ces sujets et de le faire connaître. Et puis, comme je disais, dans le collectif, il y a des gens qui sont dans plein d'autres associations et collectifs. Récemment, on a des personnes un peu plus jeunes qui nous ont joints, qui sont un peu en lien avec les mouvements étudiants. Donc on espère aussi pouvoir toucher ces milieux-là et ça nous ferait très plaisir de venir intervenir à différentes écoles ou universités pour faire le lien avec d'autres sujets sociaux. On a conscience que l'actualité est malheureusement très riche sur le plan social, mais on pense que ça fait partie d'un ensemble plus global.
Sur la question de la précarité des étudiants, justement l'accès au transport, il est fondamental.
Par exemple, dans les grandes manifs là, qu'il y a eu contre le réchauffement climatique, où il y avait des milliers de personnes, on s'est rendu compte que les jeunes accrochaient énormément. C'était assez spontané, assez ça. Ah ouais, bien ça sûr. C'est super, parce qu'ils savent que ça leur coûte cher. Et bien comprendre que quand ça coûte cher, avec quelques dizaines d'euros, On n'est pas tous des adultes avec un métier, un pouvoir d'achat, etc. Donc quelques dizaines d'euros, c'est très, très important.
Et ça me fait penser, dernier point, on va continuer à aller aux différentes manifestations, aux grèves nationales ou autres, voilà, à être présent.
5 décembre ?
Voilà, par exemple. Donc, muni de notre toute nouvelle banderole, voilà, pour on aura un peu plus de visibilité, mais on sera présent sur l'espace social et public.
Et vous avez évoqué un travail sur les idées reçues, vous allez en faire une publication, un document ?
Oui. Alors, on est un peu perfectionniste, donc en fait, on aurait déjà pu publier le document, mais on continue à le relire, à essayer de creuser ces idées reçues. On travaille beaucoup avec une de mes anciennes collègues qui est très impliquée dans le collectif, et on va essayer moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on arrive à publier une version, alors c'est jamais définitif, mais en tout cas une première version aboutie pour notre réunion du 3 décembre. Et c'est un très beau document qu'on va imprimer sous forme de livret, qui reprend chaque idée reçue et qui est très très bien sourcé avec beaucoup de chiffres, beaucoup d'expériences des autres villes, que ce soit en France ou à l'étranger, qui ont mis en place la gratuité.
Et puis ça permet aussi de réfléchir, notamment justement au service public.
Donc si on a envie de vous rencontrer, donc c'est tous les 15 jours là.
Donc tous les 15 jours, prochaine réunion le lundi 2 décembre.
Un site, un blog
On n'a pas de site, en tout cas pas pour l'instant. On a une page Facebook. On va créer bientôt un compte Twitter pour pouvoir diffuser un peu plus facilement des informations. On a un mail.
Sur la page Facebook, on pourra trouver le document sur les idées reçues.
Tout à fait. Alors, le document sur les idées reçues. Ah, donc, si vous allez sur Facebook et vous mettez collectif lyonnais pour la gratuité des transports en commun, vous tombez sur notre page et il y a toutes les réunions qui sont annoncées. Et on va mettre, on a déjà mis certains documents, on a déjà mis notre flyer, on a déjà mis d'autres documents de positionnement, et on va mettre ce guide des idées reçues une fois qu'il sera finalisé. Et également, on a une adresse mail si vous souhaitez nous écrire, qui est gratuité.tclyon@protonmail.com. Le tout en minuscule, donc je répète, gratuité sans accent, point tclyon, tc comme transport en commun, @protonmail.com.
Simple.
Eh bien, merci.
On vous dit merci, un grand merci pour...
On peut peut-être te rappeler le plus éminent rendez-vous pour les gens qui nous écoutent.
Ah, d'ici le... Ah oui, puisque notre prochaine émission aura lieu le 5 décembre. Donc, ce sera... On reviendra tous de la manif.
Le 5 décembre, ça sera sur les... Nous accueillons des personnes qui viendront nous parler des 10 ans de couleur Palestine.
Après la manif.
Après, bien sûr, la grande manif. Merci à vous deux.
Merci bien.
Merci de nous avoir reçus.
Allez, prenez les transports en commun gratuits. Profitez-en, les camarades.
Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.